Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 9 août 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. Les élections générales au Kenya se sont déroulées dans le calme. Le duel pour la présidentielle se joue entre Raila Odinga et William Ruto. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en RDC, deuxième étape de son périple africain. Au Burkina Faso, au moins 10 civils, dont 4 supplétifs de l'armée, ont été tués lors d'une attaque. Ici aux États-Unis, le FBI a perquisitionné la résidence de l'ancien président Donald Trump en Floride. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et des sports, mais tout d'abord le journal. Les Kenyans ont voté ce mardi lors d'élections locales, législatives et présidentielles. Ce scrutin s'annonce déjà historique car le président sortant, Uhuru Kenyatta, ne peut se représenter après 2 mandats. Yakuba Ouedraogo.
Plus de 22 millions d'électeurs doivent voter 6 fois pour élire un nouveau président, des députés et des élus locaux. Le duel s'annonce serré entre les deux principaux candidats à la présidence, Raila Odinga, 77 ans, vétéran de l'opposition soutenu par le pouvoir, et William Ruto, 55 ans, vice-président d'Uhuru Kenyatta. Le président sortant appelle à des élections pacifiques.
C'est un jour de vote. Je pense que c'est un jour où nous voulons tous prier pour que les Kenyans aillent voter en paix et rentrer chez eux en attendant les résultats.
Le scrutin s'est déroulé dans le calme en cette journée déclarée fériée. Raila Odinga a voté dans le bidonville de Kibera à Nairobi. Son adversaire William Ruto a voté dans le village de Kosachei, près d'Eldoret, dans la vallée du Rift. Si aucun des deux adversaires n'obtient plus de 50% des voix, le Kenya connaîtra pour la toute première fois un second tour dans une élection présidentielle. La commission électorale a jusqu'au 16 août pour proclamer les résultats.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en RDC, deuxième étape de son voyage en Afrique. Il sera reçu en début de soirée par le président Félix Tshisekedi qui compte évoquer les tensions entre son pays et le Rwanda. Nani Talani.
Mardi, M. Blinken sera reçu en début de soirée par le président Tshisekedi, qui ne manquera pas d'évoquer des questions de partenariat stratégique entre la RDC et les USA, indique la présidence congolaise dans un communiqué. Un rapport d'experts de l'ONU détaille l'implication directe du Rwanda avec les combattants du M23 dans l'Est congolais. Kigali a récusé ces allégations et avancé son droit à défendre son territoire. Après la République démocratique du Congo, Anthony Blinken se rendra au Rwanda. Pour l'ONG Human Rights Watch, le secrétaire d'État américain devrait profiter de ses visites dans les deux pays pour exprimer clairement les vérités qui dérangent et avertir le Rwanda des conséquences de son soutien au M23. Ce mouvement rebelle a repris les armes l'an dernier en reprochant à Kinshasa de n'avoir pas respecté les accords de Nairobi sur la démobilisation et la réinsertion de ses combattants.
Nous reviendrons sur les visites d'Anthony Blinken en RDC et en Afrique du Sud dans la partie magazine. En Guinée, un collectif qui s'oppose à la junte au pouvoir et qui a été le fer de lance de la contestation contre le troisième mandat pour Alpha Condé a été dissous par un arrêté du gouvernement. Le groupement de fait dit Front National de Défense de la Constitution est dissous et le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature, dit le document signé par Maurice Condé, ministre de l'administration du territoire. Le collectif avait appelé lundi à une nouvelle manifestation contre la junte. Au Burkina Faso, au moins 10 civils, dont 4 supplétifs de l'armée, ont été tués lundi lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Les assaillants ont ciblé la localité de Sima, dans la province de Yatenga. Parmi les victimes, des volontaires pour la défense de la patrie et des civils, selon une source sécuritaire. L'attaque a été confirmée par un responsable local des VDP qui n'a pas donné de bilan précis, mais a indiqué que plusieurs volontaires sont toujours portés disparus. L'attaque a été repoussée aux portes de Séguénéga par les éléments qui ont reçu un renfort des forces de défense et de sécurité, selon ce responsable qui a affirmé qu'elle a occasionné une fuite massive des habitants de la commune. Il a cependant indiqué qu'ils ont commencé à revenir certainement après avoir constaté la riposte aérienne de l'armée. La semaine dernière, 9 supplétifs de l'armée et 4 soldats ont été tués dans une autre attaque contre une unité de détachement militaire de Bourzanga, toujours dans le nord du pays. créé en décembre 2019 pour appuyer l'armée. Les volontaires pour la défense de la patrie paient un lourd tribut dans la lutte contre les groupes terroristes.
Et l'on apprend aujourd'hui que 15 soldats burkinabés ont été tués ce mardi lors d'une double attaque à l'engin explosif commise par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué. Le chef de la junte au Mali a, lui, réceptionné aujourd'hui de nouveaux équipements militaires, dont 5 avions et un hélicoptère de combat livré par son partenaire russe. La Russie a déjà livré en mars plusieurs hélicoptères de combat et des armes. Le Mali a accueilli ce que la junte présente comme des instructeurs russes. Toujours à propos du Mali, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé aujourd'hui des détentions illégales, des restrictions de la liberté d'expression et des disparitions forcées. Human Rights Watch s'inquiète du sort de 7 militaires arrêtés à la mi-mai, accusés d'avoir fomenté un coup d'État. Bamako n'a fourni aucune information sur l'état de santé de ces hommes, ni sur le lieu où ils se trouvent, ajoute l'ONG, évoquant des disparitions forcées. Côte d'Ivoire, la grâce accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara à son prédécesseur Laurent Gbagbo a été jugée insuffisante par son parti. Cette grâce annoncée samedi ne correspond pas aux attentes légitimes de nos compatriotes, a estimé le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, créé l'an dernier par M. Gbagbo. Il se déclare en faveur d'une loi d'amnistie qui efface la peine, contrairement à la grâce présidentielle, selon une déclaration lue à la presse par Justin Kone Katina, le porte-parole du parti.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a annoncé lundi que sa célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago, a été perquisitionnée par la police fédérale. Il se dit victime d'une persécution politique. Mohamed Oumfa.
Ma belle demeure, Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Cette perquisition, non annoncée de mon domicile, n'était ni nécessaire ni appropriée, a-t-il affirmé. Des images aériennes ont montré des voitures de police à l'extérieur de la propriété. Selon le New York Times, M. Trump ne se trouvait pas sur place. Selon des médias américains, l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. L'ex-dirigeant aurait emporté plusieurs documents en violation d'une loi de 1978 selon laquelle tout président américain doit transmettre l'ensemble de ses emails, lettres et documents de travail aux archives nationales chargées de les conserver. Monsieur Trump, lui, se dit victime de persécution politique. C'est une faute du procureur, l'instrumentalisation du système judiciaire et une attaque des démocrates de la gauche radicale qui ne veulent pas que je me présente à la présidence en 2024, a-t-il dénoncé.
Le président Joe Biden, lui, a visité la ville de Lost Creek dans le Kentucky où il a promis aux victimes d'inondations dévastatrices que leur vie serait reconstruite. Après avoir rendu visite à des victimes, le président démocrate a affirmé que cette catastrophe naturelle était l'occasion de renforcer les liens sociaux. Le locataire de la Maison-Blanche a tenté de faire passer un message d'optimisme dans cette région défavorisée à 3 mois d'élection de mi-mandat. Les intempéries ont fait au moins 37 morts dans la région. L'Union européenne attend de Téhéran et de Washington une décision rapide sur le compromis final élaboré à Vienne pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a déclaré le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'Iran a dit étudier le texte de 25 pages. Le compromis permet le retour des États-Unis dans l'accord avec la levée des sanctions imposées à Téhéran, à condition que l'Iran respecte ses engagements et cesse de dépasser les limites prescrites sur l'enrichissement et les activités nucléaires. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que les manœuvres militaires chinoises organisées en représailles à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, s'inscrivaient dans une stratégie globale pour préparer une invasion de l'île. Joseph Wu a assuré que Taipei ne se laisserait pas intimider, alors même que Pékin a poursuivi ses exercices militaires dans le détroit de Taïwan, franchissant à plusieurs reprises la ligne de démarcation. Le gouvernement britannique a annoncé ce mardi avoir renoncé à son projet de grand centre pour demandeurs d'asile dans une ancienne base de l'armée de l'air du nord de l'Angleterre pour lutter contre l'immigration clandestine. En avril, le premier ministre Boris Johnson avait annoncé une série de mesures censées juguler les traversées illégales de la Manche, sans cesse plus nombreuses, expulsion de migrants vers le Rwanda, transfert à la marine du contrôle de la mer et construction de grands centres dédiés aux demandeurs d'asile inspirés de ceux existants en Grèce. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mohamed Oumfa.
Au Cameroun, les activités de la filière coton pourraient chuter au troisième trimestre cette année selon le bulletin prévisionnel de conjoncture publié par la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. La campagne arrivant à son terme, les stocks de produits finis ont considérablement diminué, note la banque, qui ajoute que les prix de vente du coton fibre devraient flamber, reflétant la tendance haussière des prix des intrants observée depuis le premier trimestre de l'année. La compagnie aérienne tchadienne Tchadja Airlines a été placée en liquidation après 3 années de pertes financières successives. La décision a été prise, note Financial Afrique, à la suite de l'Assemblée générale des actionnaires tenue en juillet dernier, en raison principalement de la baisse des capitaux propres depuis 2019, une absence de perspective de redressement financier ajoutée aux impacts financiers de la pandémie de COVID-19. L'agence de notation Standard & Poor's, dans une note publiée le 5 août 2022, a abaissé les notes du Ghana en tant qu'émetteur de dette à CCC+ et C, ce qui signifie que le risque d'un ou plusieurs défauts de remboursement est désormais très élevé. Selon l'agence américaine citée par Ecofin, les efforts entrepris par le gouvernement ghanéen pour réduire la position déficitaire de son budget sont insuffisants à restaurer l'équilibre sur sa dette, car ses coûts d'emprunt augmentent rapidement alors que la croissance économique évolue à un rythme plus lent.
Last but not sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le tirage au sort des matchs interclub de la CAF aura lieu ce mardi au Caire, en Égypte.
Oui, la course à la succession du Wydad Casablanca en Ligue des Champions et de la Renaissance sportive de Berkane en Coupe de la Confédération est donc lancée. Il y aura un tour préliminaire dont les matchs aller auront lieu entre le 9 et le 11 septembre prochain. Les matchs retour une semaine plus tard. 6 clubs sont exemptés de ce premier tour en Ligue des Champions et 13 en Coupe CAF.
Demain mercredi, la CAF tiendra son Assemblée générale ordinaire.
Ce sera à Arusha, en Tanzanie, et le dossier le plus attendu est celui de la Super League africaine. Un mois après avoir officialisé son lancement, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, va comme prévu dévoiler les détails de ce projet, le nombre de clubs qui vont participer à cette première édition, qui va démarrer en août 2023, ainsi que leur identité.
NBA, après l'ultimatum de Kevin Durant, le propriétaire des Nets soutient la direction sportive.
Joe Tsai a apporté son soutien à l'entraîneur Steve Nash et au manager général Sid Marks. Selon une information de presse, la mégastar Kevin Durant a demandé au propriétaire des Brooklyn Nets de choisir entre le garder ou conserver le coach et le manager général à leur poste. Notre administration et notre personnel d'encadrement ont mon soutien, a tweeté Joe Tsai. Le média en ligne des Athletics a indiqué que Durant, 33 ans, a rencontré Tsai à Londres pour un entretien au cours duquel il a souligné qu'il n'avait plus confiance dans la direction de l'équipe après l'élimination des New Yorkais par Boston au premier tour des playoffs la saison dernière. L'ailier star a demandé à être échangé en juin. Il entame la première saison de son lucratif contrat, une prolongation de 4 ans signée il y a 1 an avec les Nets pour un montant de 198 millions de dollars.
Tennis, Serena Williams annonce que le compte à rebours est enclenché concernant sa retraite.
C'est ce qu'affirme sur Instagram et dans une interview la star du tennis. Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait, a expliqué Serena Williams, détentrice de 23 titres en Grand Chelem. L'Américaine de 40 ans dit vouloir se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle, mais tout aussi passionnante Serena. Je vais savourer les prochaines semaines, a ajouté la plus jeune des sœurs Williams, sans préciser la date exacte de sa retraite. Hier, Serena Williams a remporté sa première victoire depuis plus d'un an au tournoi WTA 1000 de Toronto, moins de 3 semaines avant le début de l'US Open, où elle figure sur la liste des engagés.
Page des sports VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Bion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce mardi à RDC. À l'occasion de cette visite, une dizaine de représentants des mouvements citoyens et des laïcs protestants a déposé à l'ambassade des États-Unis un plaidoyer sous forme de mémorandum. Ce mémo est destiné au gouvernement américain par le canal du chef de la diplomatie des États-Unis. Notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati Kataï, nous en dit plus.
Dans ces mémos, le mouvement citoyen et les laïcs protestants demandent aux États-Unis de s'impliquer dans la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Jeff Mbambi, président du ministère des laïcs protestants qui a conduit la délégation, affirme que les États-Unis ont un rôle important à jouer dans la fin des tueries dans l'est du pays.
Les États-Unis ont un rôle important à jouer dans une paix définitive en République démocratique du Congo. Et cette paix-là passe par le renforcement de nos forces armées et forces de sécurité. Parce que si nous ne sommes pas capables de protéger, de défendre notre espace territorial, nous serons toujours en difficulté avec nos voisins prédateurs. Et raison pour laquelle nous avons pensé au niveau des forces sociales et politiques de la nation, à travers notre jeunesse, et que nous devrions présenter un mémorandum de plaidoyer au gouvernement américain à travers le secrétaire d'État Blinken qui arrive aujourd'hui.
Les mouvements citoyens demandent aux États-Unis de peser de leur poids pour la levée de l'embargo sur les armes imposées à la RDC par l'ONU. Ces mouvements estiment que cet embargo affaiblit la RDC face à ses ennemis. Saïd Zaïna du mouvement citoyen Bilenge Banakin.
Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Alors si on n'a pas les armes, on va préparer la guerre comment? Et puis on va comment nous battre par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Très difficile. Les États-Unis doivent nous soutenir, doivent nous prêter main forte et doivent enlever cet embargo. Doivent vraiment enlever cet embargo pour que nous puissions avoir les armes pour nous défendre, pour défendre notre terre.
Un autre point contenu dans ces mémos, c'est celui des élections générales de l'an prochain. Pour les laïcs protestants, le gouvernement américain doit aider le gouvernement congolais à organiser des élections inclusives et transparentes en 2023.
Nous demandons les États-Unis de discuter avec leur homologue congolais, donc le pouvoir de Kinshasa, pour que les élections, le processus électoral soit consensuel et que certaines dispositions soient prises pour que les élections soient apaisées, inclusives et justes.
Un représentant de l'ambassade des États-Unis en RDC a réceptionné ces mémos de main des responsables des mouvements citoyens présents. Quant à M. Blinken, qui est arrivé ce mardi à Kinshasa, il s'entretient avec le président Félix Tshisekedi avant de se rendre au Rwanda mercredi. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé hier un discours sur la stratégie des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Kate Bartlett a parlé à certains des étudiants qui ont suivi ce discours. Le récit est de Nani Talani.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné la valeur de la démocratie et les menaces qui pèsent sur elle. Il a aussi affirmé que l'Afrique est un partenaire égal avec lequel les États-Unis veulent travailler et sans rien lui dicter.
As you've heard, by 2050,
d'ici 2050, une personne sur quatre sur la planète sera africaine. Ces personnes vont façonner le destin non seulement de ce continent, mais du monde.
Anthony Blinken a aussi évoqué le coût que la pandémie de COVID-19 a porté à l'Afrique et aux économies africaines, ainsi que l'insécurité alimentaire qui, selon lui, a été aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a par ailleurs abordé un large éventail de questions comme la prévention des conflits, la désinformation, la science, la technologie, le changement climatique et l'énergie propre. Alors, qu'en pensaient les étudiants sud-africains du discours du chef de la diplomatie américaine? Zafeshia Dlamini est une étudiante qui vient de terminer une maîtrise en sciences politiques. Elle demeure sceptique.
Écoutez, chaque politique étrangère, chaque intérêt national sera toujours un intérêt national. Ce n'est pas le nôtre, nous le savons. Alors n'essayez pas de le présenter comme s'il s'agissait d'un intérêt commun.
Elle pense aussi que le chef de la diplomatie américaine ne s'est pas exprimé sur la manière dont la politique intérieure américaine influence le reste du monde. Elle a fait référence au revirement de la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement. Selon la jeune étudiante, M. Blinken aurait dû en parler. Billy Botsabelo Manama, 22 ans, étudiant en relations internationales, estime que le discours de Blinken encourage fortement la bonne gouvernance qui, selon lui, a parfois été un problème sur le continent.
Regardez, beaucoup a été mentionné sur la démocratie à juste titre en regardant l'histoire de l'Afrique.
Il ajoute que les États-Unis, comme l'Afrique du Sud, ont des relations similaires en matière d'égalité raciale et des droits de l'homme.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la nouvelle stratégie américaine en Afrique. Lors de sa tournée sur le continent, le patron du département d'État, Anthony Blinken, compte mettre en valeur la vision de Washington pour le continent dans un contexte de poussée russe et chinoise. La démocratie, la relance économique post-Covid, la sécurité, le climat et la transition énergétique sont les grands axes de la réorientation de la politique américaine en Afrique. Vers quel type de relation entre Washington et le continent? Comment l'Afrique, convoitée par les grandes puissances, peut-elle profiter de cet intérêt envers elle? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mardi dans plus de 46 000 bureaux de vote. Les Kenyans doivent choisir 6 postes électifs, dont celui de président. Le vote s'est déroulé pour l'essentiel dans le calme et le dépouillement a déjà commencé. Les détails dans ce reportage de Mohamed Youssouf depuis Nairobi. Le récit est de Rosine Mounezero.
Il y a plus de 22 millions d'électeurs inscrits. Ils doivent choisir le président, les gouverneurs, les sénateurs, les membres de l'Assemblée nationale et les élus locaux. Peu après l'ouverture des bureaux de vote, un candidat à l'élection parlementaire de la circonscription de Rongai dans le comté de Nakuru a été suspendu après des erreurs dans le bulletin de vote. Cette suspension a conduit les résidents à barricader les routes et à allumer des feux pour exprimer leur mécontentement. Certains Kenyans à travers le pays ont signalé que le système d'enregistrement biométrique ne fonctionne pas ou prend du temps à identifier les électeurs. Ce système d'identification dans le centre du pays n'a pas pu reconnaître les empreintes digitales du colistier de William Ruto, Rigathi Gachagua, qui a été reconnu par le registre manuel des électeurs et a finalement eu le droit de voter. Mwangi Kevin, un électeur de Nairobi, a dû attendre longtemps avant de pouvoir voter.
Le processus est bon. Le seul défi que nous avons eu au début était l'attente. Je pense qu'ils ont ouvert vers 6h30 du matin, donc le temps d'attente pour moi était de 3h, mais au fur et à mesure que nous avancions, les choses ont bien fonctionné.
Rahab Kamau, 44 ans, est satisfaite du déroulement de son bureau de vote, situé juste en face du Parlement, dans le centre de Nairobi.
Je n'ai jamais voté aussi tôt, et venir tôt aide beaucoup. Dans cette élection, les agents de la commission électorale sont bien organisés. Il n'y a pas beaucoup de monde et il y a moins de confusion. S'il est indiqué qu'une personne se trouve dans la ligne 9, cette personne doit se rendre dans cette ligne et voter.
Selon elle, son vote va changer sa vie et celle de ses compatriotes.
J'espère que mon pays aura quelqu'un pour qui les Kenyans ont voté, quelqu'un qui craint Dieu. Nous voulons un dirigeant qui puisse nous aider à réduire le fardeau financier, la cherté de la vie et le manque d'emploi.
La sécurité est renforcée dans tout le pays. Kiprotich Saidi Mohamed est l'officier en charge des opérations de sécurité dans la région de Nairobi.
Notre principale préoccupation est la sécurité des bureaux de vote, des agents électoraux, des matériels de vote et de l'environnement autour des centres de vote, et plus tard des centres de dépouillement. Nous avons déployé suffisamment d'agents de sécurité, non seulement dans les bureaux de vote, mais aussi dans l'ensemble de la ville, pour nous assurer que tout se passe bien.
Il s'agit de la 7e élection générale depuis l'instauration de la démocratie multipartite. Pour gagner la course à la présidence, un candidat doit avoir plus de 50% des voix. S'il n'y a pas de vainqueur clair, les Kenyans devront retourner aux urnes pour un second tour de scrutin.
Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de factions rebelles sur l'ouverture d'un dialogue national le 20 août à N'Djamena. D'importants groupes rebelles ont refusé de paraffer le texte, dont l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement au Tchad. Yacouba Ouedraogo a joint Mahamat Ali Youssouf, président de l'UMDD.
Nos revendications sont rejetées par le conseil militaire de transition. Pourquoi nous, on n'a pas signé l'accord? Nous avons demandé, entre autres, la parité au comité de dialogue national inclusif. Cotonou, le CMT a rejeté le conseil militaire de transition. Le quota au dialogue national inclusif souverain a rejeté aussi. On a demandé la participation de tous les partis politiques, de la société civile, participer à ce dialogue. On n'a pas donné de suite. Et aussi, on a demandé la réforme de l'armée nationale, c'est une armée clanique, et la modification des charges de transition. Toutes ces revendications, le CMT a refusé.
Qu'est-ce que la junte militaire au pouvoir vous a répondu lorsque vous avez posé toutes ces revendications-là?
Il a envoyé plusieurs projets par l'intermédiaire des médiateurs, et toutefois, on a modifié. Nous, on a dit, ça, c'est le point essentiel. On peut discuter avec eux, et qu'on peut négocier. Et on n'a jamais fait une réunion globale entre les médiateurs et le CMT, et le gouvernement du Tchad sur le projet d'accord. On n'a jamais fait une réunion ensemble pour discuter, pour voir chacun va apporter sa contribution. On n'a jamais fait ça. Donc on est en train d'échanger avec des textes et ils nous envoient un texte. Nous, on retourne avec des textes, avec nos revendications. C'est comme ça qu'on est en train de fonctionner.
Même si tout le monde était réuni à Doha au Qatar là-bas?
Par exemple, on ne nous a jamais mis en assemblée. Au début, c'était prévu avec le gouvernement et le côté d'opposition et la médiateur qui essaie de faire centrer les choses. Le gouvernement n'a pas voulu ça parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire une paix durable au Tchad.
Vous dites quand même être ouvert au dialogue. Comment ça va se passer par la suite? Le dialogue national commence le 20 août, ça sera sans vous?
Ça sera sans nous, ça sera sans aussi les partis politiques et la société civile qui ont aussi rejeté ce dialogue parce que ce n'est pas un dialogue national où tout le monde sont là, c'est-à-dire la CONIC, c'est MPES, tous les militants de MPES qui sont dedans. Donc nous, on n'a pas de voix, même le politico-militaire, ils n'ont pas donné de place, ils n'ont même pas donné de quota. Et comment nous, on peut hasarder à s'est présenté à Djamena, même notre sécurité n'est pas assurée.
Le gouvernement dit garantir la sécurité de tous ceux qui viendront au dialogue.
Comme c'est la continuité du régime d'Idriss Déby, nous connaissons l'essor de ceux qui ont signé des accords avec Idriss Déby père, qui ont été assassinés en pleine capitale.
Qui a été assassiné et quand?
Abbas Koti, Yusuf Togomi, aussi des avocats, des gens des droits de l'homme, Maître Bidi, ont tous assassinés en plein ville, même l'opposant Ibn Omar était assassiné en pleine capitale. Donc personne n'est capable de faire des enquêtes, faire sortir la vérité. Donc pour cela, on ne peut pas prendre ces risques pour aller à Djamena, hasarder notre vie.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant par la suite, maintenant que vous refusez de participer au dialogue national?
On va se concerter, ceux qui n'ont pas signé ces accords, on va voir dans quelle mesure on peut sauver ces quatre qui est en train de couler. Là. Le bateau est en train de couler, vous voyez, il y a eu des guerres à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Là. Le Soudan a déjà fermé la frontière avec la Libye, c'est la même chose.
L'accord prévoit quand même un cessez-le-feu, même si vous n'avez pas signé. Est-ce que vous allez arrêter de tirer?
Nous, on n'a pas signé, c'est le gouvernement qui fait les actions qui nous attaquent. Si nous attaquent, nous, on va le replier.
Mahamat Ali Youssouf, président de l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement au Tchad.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace out.
I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.